De mon temps, je bossais déjà leur âge.
À mon époque, on prenait des tartes dans la gueule et on la ramenait pas.
Moi, leur âge, j'avais pas de téléphone. Ils ont tout, et pourtant ils sont malheureux. Nous, on n'avait pas besoin de psy.
Les jeunes d'aujourd'hui savent plus se débrouiller.
Salut tout le monde, bienvenue dans Mission Jeunes, une émission réalisée par les jeunes de la mission locale Indre Sud. Tous les premiers mercredis du mois à 11h, vous entendez la voix des jeunes. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois sensible et important, les discriminations. Des discriminations qui peuvent prendre différentes formes, liées au physique, à l'orientation, au handicap ou simplement à ce que l'on est. Derrière ce mot, il y a des réalités très concrètes, des expériences vécues, parfois difficiles, parfois marquantes. Chronique historique par Frédéric, 23 ans.
Vivian Malone, Jones sont les deux premiers étudiants noirs à s'inscrire à l'université d'Alabama en 1963. Est devenu en 1965 les deux premiers étudiants diplômés noirs de l'université. Ils deviennent célèbres lorsque George Wallace, le gouverneur d'Alabama, tente de les empêcher de s'inscrire à l'université, alors entièrement blanche. Cependant, le matin du 11 juin, agissant sur ordre du président américain, John F. Kennedy, le procureur général adjoint Nicolas Kotzenba, avec le marshal fédéraux de la garde nationale pour interpeller Wallace pour que Malone et Woods pour reprendre les cours sans difficulté. Dans une interview donnée à l'actrice de la chronique Bridgerton, s'est confiée sur son expérience médiatique autour de la perception de son corps tout en s'en détachant du mouvement body positif. Elle ne veut pas que son apparence soit au sujet à l'affiche de la saison 4. Elle dit « Je m'en souviens d'une fille très ivre qui m'a parlé en disant « J'ai adoré Bridgerton grâce à ton corps ». Elle a commencé à parler de mon corps et je me suis dit « Je veux mourir, je déteste tellement ça ». Raconte-t-elle, c'est vraiment dur quand on travaille sur quelque chose pendant des mois et des mois, qu'on ne voit pas sa famille, qu'on le consacre vraiment et que tout dépend de son apparence, c'est tellement ennuyeux. Nicola Coughlan a demandé une scène très nue dans les chroniques de Brigham pour répondre aux critiques sur son poids.
J'aime beaucoup de choses dans la vie. Je suis passionnée par la couture, par l'art en général.
Cassandra, 24 ans.
Je voudrais parler de la discrimination sur tout ce qui est grossophobie, sur le thème de la grossophobie, parce que je suis en surpoids depuis mes 8 ans. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup impactée dans ma vie de tous les jours, depuis mes 8 ans. Mais ça, selon les âges, ça a été différent. La façon dont moi je le percevais, dont les autres me percevaient aussi. Voilà. Donc au début c'était plus oh elle a des bonnes petites joues ou ce genre de remarques. Après ça a été plus du harcèlement, on me traitait de cochon, de ce genre de choses. Après il y a eu aussi ma famille qui voulait que je fasse des régimes quand j'avais que 12 ans. Ce genre de petits détails qui aident pas forcément. Puis en plus je pouvais pas m'aimer dans mon corps si en plus la moitié des affaires qu'on nous propose, c'est toujours la même chose, c'est toujours... En fait, il n'y a pas beaucoup de choses pour les personnes en surpoids. C'est souvent un jean d'une couleur, souvent du noir. Il n'y a pas de couleur en fait, il y a surtout du noir, du gris, du blanc. Bah, un peu comme je suis aujourd'hui du coup. Et c'est aussi pour ça du coup que je fais de la couture. C'est pour pouvoir faire des vêtements pour les personnes en surpoids ou juste former tout court. Pour au moins qu'ils aient des choix, en fait. J'ai été harcelée pendant mon CM1 jusqu'à ma fin de collège, pour mon poids. Pas que, mais surtout pour mon poids. Et ça a été difficile, on m'a poussée contre des casiers, j'ai fait une perte de mémoire traumatique. J'ai eu beaucoup de remarques qui détruisent une personne, un enfant surtout. Donc ça a été sur mon poids, ça a été ou sur mes formes, parce que j'ai commencé à avoir de la poitrine très tôt. Et du coup, j'avais des remarques, on me touchait les seins, on me touchait les fesses aussi. On se moquait de ça. Le sport aussi, pendant les cours de sport, où j'étais forcément un peu plus à la traîne. Et que du coup, j'avais des remarques, sale truie, sale machin. C'était pas très sympa. Alors ça a commencé avec mes anciennes meilleures amies. Après, ça a été un peu toute l'école, en fait. Et le problème, c'est que ça vient aussi souvent de la famille. Alors, ils s'en rendent pas forcément de compte. Parce que pour eux, en fait, c'est gentil. C'est pour m'aider, pour me permettre de m'améliorer pour eux. Alors que j'ai pas forcément besoin d'être améliorée. La famille, c'était plutôt des remarques du genre « Je suis... Il faut que tu maigrisses, faut que tu fasses des régimes, faut que tu fasses attention. La personne va t'aimer comme ça. » Les amis, c'était plus... ils se mettaient en valeur à côté de moi, parce que du coup, eux, ils paraissaient fins à côté de moi. Du coup, ceux qui m'harcelaient, c'était vraiment des remarques horribles. Et puis les professeurs... j'ai eu un professeur qui m'a dit qu'après que je me sois fait harceler, il m'a dit en même temps, vu comment tu es, c'est normal. Donc, au collège, j'ai dû changer d'école plusieurs fois. Ça a commencé en primaire, c'était gentillé, on va dire. Et au collège, ça s'est vraiment aggravé. C'est là où j'ai fait ma perte de mémoire. J'ai fait aussi une phobie scolaire. Et du coup, c'était c'était difficile. J'ai eu du mal à suivre les cours. En plus de ça, j'ai un handicap qui n'aide pas pour les cours. J'ai arrêté de faire du sport. J'avais plus le droit de faire de sport à l'école. Parce que j'ai eu des problèmes de cheville, de genoux, tout ça, à cause du poids. Et du coup, ça ne m'aidait pas au quotidien pour l'école. J'ai eu des très mauvaises notes toute ma scolarité et collège. Je suis arrivée en aide à la personne, c'était déjà un peu mieux, mais c'était plus niveau des uniformes, tout ça que j'avais du mal, parce qu'il fallait que je trouve des uniformes à ma taille, et il n'y en avait jamais, surtout pour mon âge, j'avais 14 ans, et j'étais déjà, je faisais déjà une taille bien adulte, homme, et donc il fallait qu'ils trouvent, pour des jeunes filles de mon âge, c'était compliqué. J'ai eu des remarques aussi de ma prof de nutrition. Qui m'a dit, en même temps, on n'aura jamais ta taille. Qui m'a fait des remarques comme ça devant toute l'école, devant toute la classe. Ça n'aidait pas forcément pour la confiance en soi. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Parce que je commence à m'accepter moi-même. J'ai rencontré des gens qui m'ont jamais jugé pour mon poids, pour ce genre de choses. Qui étaient vraiment là pour moi, qui m'aimaient comme ça. Et du coup, ça m'a permis de m'aimer moi, en fait. Parce que quand j'étais petite, avant que je prenne beaucoup de poids, je m'habillais avec des robes, j'étais fleurie, et puis après, du coup, j'ai dû commencer à avoir des vêtements pour mon poids, pour ma taille, et que en plus je suis grande, donc c'était pas très pratique de trouver des vêtements, on va dire, qui me plaisaient. Je pouvais pas affirmer mon style parce qu'il y avait rien en fait moi j'ai un style assez alternatif normalement, mais je trouve pas de vêtements qui correspondent à ce que je suis. Et souvent ça va être des jeans, des t-shirts basiques, uniformes, très blanc, très gris, pour pas en fait voir les tailles. Et ça c'était un truc qui m'a bloqué très souvent. Pareil, j'acceptais pas mon visage parce que je le trouvais potelé. Et du coup maintenant ça va, je m'en sors mieux, je me maquille, je prends plaisir à me maquiller, à m'habiller. Maintenant, vu que je peux créer mes propres vêtements, c'est plus sympa pour moi. Je mets toujours pas de robe, mais ça, c'est parce que j'aime pas trop. Mais ça a beaucoup changé ma manière de m'habiller, de vivre au quotidien. Par rapport à mon corps, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être plus libre, de pouvoir... faire plus de choses aussi que ce qu'on m'a limité à peu près toute ma vie sur mon poids. On me disait que je pouvais pas faire certaines choses parce que justement, soit ce serait pas beau, parce qu'on pense toujours que être en surpoids ça veut dire être moche, alors que non, je sais maintenant que j'ai un très joli visage, c'est pas ça qui va me rendre moche ou qui va me dicter ce que je suis en fait. J'ai passé le cap surtout en rencontrant des personnes qui étaient comme moi, qui ont vécu des choses aussi horribles que moi. J'ai travaillé aussi avec des personnes âgées qui étaient en surpoids aussi et qui ont vécu toute leur vie avec ce genre de choses. J'ai aussi vu beaucoup de personnes avec des troubles alimentaires qui ont essayé de maigrir, ou alors qui étaient déjà très maigres. Et je ne me suis pas sentie au début concernée par ça. Et je me suis rendu compte justement que le fait que je ne me sentais pas concernée par ça, par le fait de vouloir soit trop manger, soit pas manger pour changer mon poids, bah, ça voulait dire que j'étais un peu passée au-dessus. C'est plus là où je me suis rendu compte que j'étais passée au-dessus de ça. J'ai toujours mangé comme je pensais que j'ai eu des troubles forcément. Quand j'étais harcelée, je mangeais plus. Je noyais mes émotions en mangeant en fait. Et quand je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de faire ça, quand je m'acceptais comme ça, et ben j'ai un peu arrêté ça. Alors ça m'arrive des fois quand je vais stresser, vraiment faire des crises de stress, je vais manger un peu plus. Mais en même temps, un peu comme tout le monde.
La chronique culturelle par Eva.
Donc, ce sont des sociétés qui existent encore aujourd'hui. Et la première, c'est la société des Cassis en Inde. Donc, dans cette société, c'est la fille aînée qui devient le chef de sa famille et qui conserve l'héritage. Et là-bas, donc, dans leur version de l'Ancien Testament, il est stipulé que c'est Adam qui a été créé à partir de la côte de Ève. Et c'est l'ouverture au réseau et aux différents podcasts a entraîné des mouvements de révolte des hommes qui réclament une société égalitaire, exactement comme on voit que dans notre société, les femmes veulent une société égalitaire. La seconde de ces sociétés matriarcales, donc c'est l'ethnie des Na en Chine. Et donc chez elles également, la filiation se fait par les femmes, c'est-à-dire que quand il y a un mariage, l'homme rentre dans la famille de sa femme, alors que chez nous, on voit que c'est la femme qui prend le nom de famille de son homme. Même si il y a changement dorénavant, il y a le choix des époux. Comme chez les Cassis, chez les Na, ce sont elles qui héritent de la famille, et les hommes ont pour rôle de s'occuper des enfants. Et cependant, c'est une société qui n'impose pas la fidélité dans le mariage et qui pratique la relation libre, sans que cela ne crée de tension entre les individus.
Que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout. On m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman, c'est... depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile.
Pour moi, la discrimination, c'est rabaisser les personnes, ne pas forcément écouter non plus.
Léa, 21 ans.
J'ai du mal à m'exprimer. Parce que j'étais en Ulysse. Et du coup, j'ai été rabaissée parce que j'étais différente et que du coup, j'avançais pas comme les autres, en fait. Et du coup, c'était souvent des critiques assez débile en fait, on va dire, entre parenthèses. Ulysse, c'est juste en gros des personnes qui n'arrivent pas à suivre comme les personnes normales en fait. C'est juste, c'est un... Comment dire C'est une classe qui est faite pour t'aider en fait justement à tout ce qui est maths, tout ça, tout ce qui est à l'école. Et pour te faire évoluer et... qui te met un niveau plus bas que les élèves normales, mais par rapport à ton niveau toi, en fait, que t'as scolaire. Parce que moi, mon niveau scolaire, en tout cas, c'est CM2. Donc c'est vraiment pas le niveau quand t'arrives au collège, c'est plus haut, en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis plus bas, parce que je parle de moi, personnellement. J'en pleurais tous les jours. Il y a des jours où je voulais pas aller au collège. Je disais à ma mère que j'étais malade, enfin j'essayais d'éviter en fait d'y aller. Déjà tu te sens mise à l'écart, mise dans des cases. Tu te sens vraiment différente en fait. Alors que en soi tu ne dois pas te sentir différente, t'en es tous pareils. Et tu le vis très mal. Mais je pense que, enfin en tout cas moi, je sais que je l'ai très mal vécu au début. Et après. Je me suis dit, en fait, justement, de cette différence, il faut faire une force et se dire qu'on peut quand même y arriver et avancer. Alors, déjà, je suis dyslexique, donc c'est très compliqué pour parler et pour écrire surtout, parce que les personnes ne comprennent pas forcément ce qu'on écrit. Et j'ai eu beaucoup de reproches aussi par rapport à ça, par rapport aux professeurs surtout, parce qu'ils ne comprenaient pas quand j'écrivais. Comment ça se voit Alors moi, je sais que ça, on l'a vu parce que quand j'étais petite, j'étais suivie par le CMPP et tout ça. Hein, tout, et j'avais des exercices à faire où il fallait écrire et ou lire et des trucs comme ça. Et du coup, j'avais beaucoup beaucoup de mal à lire et à écrire. Et du coup, j'ai passé des tests après pour savoir du coup si ça venait de ça ou si c'était autre chose en fait. Ça m'handicape parce que des fois j'ai du mal à m'exprimer, mais je vais bégayer. Ou alors je vais dire des trucs pas français, mais genre des fois j'échange des mots ou des phrases ou j'oublie des mots en fait. Du coup c'est un peu compliqué des fois de communiquer avec d'autres personnes pour se faire comprendre. Étant donné que je parle vite aussi des fois, du coup c'est un peu plus compliqué. Ça évolue beaucoup je pense avec les années et à pas se poser de questions aussi et à se dire ok, si je suis comme ça... c'est pas grave et je vais continuer à avancer, je vais faire ma vie et je vais quand même réussir à faire ça. Voilà, tout simplement, en fait, je pense. Et si j'ai un autre handicap, mais il se voit pas, mais ça, c'est juste un bout du cerveau qui est momifié. En fait, je suis née comme ça et du coup, j'ai un cerveau qui marche moins que la normale, en gros. Parce que cette partie-là, c'est tout ce qui est mémoire et tout ça, en fait. Côté famille, c'était plutôt des trucs sur mon physique. Parce qu'avant, j'étais plus forte. Et c'était des critiques, genre arrête de bouffer, tu vas grossir, ou des trucs comme ça. C'était vraiment souvent ça, en fait. Des trucs, je pense, qui sont restés dans ma tête et qui ont fait que plus tard, du coup, j'ai perdu du poids et que ça s'est impacté plus tard, en fait. J'ai des troubles alimentaires par rapport à toutes les remarques que j'ai eues, en fait, dans le passé. Et sauf que c'est arrivé beaucoup plus tard, genre c'est arrivé après le lycée. Et j'ai commencé à perdre du poids. Je suis passée de 75 kilos à 45 en 2 mois. Alors à l'heure actuelle, oui, je trouve que ça a beaucoup évolué parce que moi, je sais que j'y suis rentrée, j'étais en primaire. Et ça a mis du temps avant, du coup, ils m'ont fait doubler en primaire une année pour voir vraiment si je devais aller en Ulysse ou pas. Et avant, c'était plus compliqué, en fait, de voir que les élèves avaient vraiment des difficultés et de comprendre pourquoi et tout ça. Alors qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est plus facile. Parce qu'ils se disent, ok, ils ont ça et tout. Et ils se disent, bah, du coup, on peut l'emmener en Ulysse, on peut l'accompagner. On peut, voilà. Alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. J'avais mes amis, j'avais mon groupe, mais on s'entendait pas tous dans la classe. De toute façon, dans toutes les classes, je pense que c'est un peu pareil. Mais ça m'a beaucoup aidée en fait. Ça m'a fait grandir parce que je me suis dit, je suis pas toute seule à vivre ça et à être comme ça en fait. Et je me suis fait beaucoup d'amis, dont ma meilleure amie à qui je parle encore actuellement. Avoir la tête haute et quand même continuer à avancer malgré tout ça et à faire une force en fait de tout ça au final. Là, à l'heure actuelle, avec mon corps, je me sens bien parce que je me pose plus vraiment de questions. Je me dis, je me suis trop privée de nourriture et trop privée de tout ça pour faire subir encore plus de trucs à mon corps. Mais je me sens bien, je suis heureuse dans mon corps et ça me fait avancer, je pense aussi. Le pire truc qu'on m'ait dit au fait, le pire truc, je pense, c'est que quand j'étais au collège, je voulais faire coiffeuse. C'était le métier vraiment que je voulais faire depuis que j'étais petite, c'était vraiment le métier de mes rêves. Et je me rappelle, c'était en réunion avec ma mère et mon prof m'a regardé et fait « Mais en fait, t'auras pas les capacités, tu pourras jamais faire ça en fait. Genre, t'as pas le niveau et tout ça. » Sauf qu'en fait, il me l'avait répété 2-3 fois à côté et du coup, en fait, ça m'a complètement découragée, ça m'a plus donné envie de faire ce métier-là. Donc bah du coup, je me suis sentie mal et je me suis dit « Bon bah ok, bah, ce métier, je pourrais pas le faire en fait. » Et je pense que depuis, bah, je me dis « Je peux pas le faire » alors qu'en vrai, au fond de moi, je suis sûre que si je fais des... Comment on appelle ça ? Une formation ou autre dans ça, je peux le faire. Parce que j'ai déjà fait des stages en plus dedans. Ok, c'est humain, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut dire des trucs des fois et la personne en face va pas le comprendre pareil. Mais quand même faire attention et réfléchir à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire. Parce que juste un truc peut avoir des répercussions sur plusieurs années en fait. C'est un truc qui peut se passer au collège et au final... Quand t'as 21 ans ou 22 ans, tu peux avoir les trucs maintenant, en fait. Enfin, tout subir, en fait. Donc, quand même, un minimum, faire attention. Après, je pense surtout qu'il y en a beaucoup, ils le font involontairement, et c'est pas vraiment volontaire. Mais quand même, se méfier et se poser la question avant, ou alors quand on voit qu'on a fait une erreur, qu'on a fait un truc qui blesse la personne en face, s'excuser ou aller la voir, et lui dire « excuse-moi », lui parler, tout ça. Ça m'a isolée quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais en primaire. Parce que je me sentais pas comprise, je me sentais vraiment à l'écart complet. Et du coup, je me renfermais beaucoup sur moi-même. C'était ma carapace, je pense, pour essayer de me protéger. Et, oui, je me suis harcelée au collège, bah, justement par rapport au fait que j'étais en Ulysse et tout. Mais c'était même pas dans le collège, c'était dans le bus, en fait. C'était des personnes qui allaient dans le bus et genre on se foutait de moi parce que du coup, j'étais différente, parce que j'allais pas réussir à faire ça, parce que nanani. Et je me rappelle d'un jour qui est très très marquant, genre où il y avait mon frère qui était derrière dans le bus. Et je pense que c'est le jour qui m'a traumatisée vraiment. Et on se foutait de moi et tout. Et bah moi, la seule façon de me défendre, c'est que je me suis fait du mal, même moi en fait. Bah c'est-à-dire que je me suis mutilée en gros. Et c'était ma seule façon de m'exprimer et de faire comprendre que j'avais besoin d'aide en fait. Ça a duré quasiment un an. Et j'en ai parlé à ma mère et j'ai été voir une psychologue, je me suis fait aider et j'en ai parlé aussi au collège justement de tout ça. Et il y avait des personnes qui ont été renvoyées, d'autres non, mais c'est pas vraiment grave, c'était pas non plus les plus... voilà, c'était les premiers qui se sont fait plus virer. Aujourd'hui je suis bien, je pense que je me sens moi et que en fait j'ai pas besoin de quelqu'un ou des autres pour exister en fait. Je pense que j'ai pas besoin de me cacher, d'avoir ma carapace. Je pense que juste le fait d'être moi, en fait, c'est tout simplement. En fait.
L'instant poème par Enzo, 19 ans.
Du pain et des roses. Traduit de James Oppenheim, décembre 1911. Alors que nous arrivons, marchant dans la beauté du jour, un million de cuisines sombres, un millier de greniers sombres, sont touchés par l'éclat d'un soleil radieux soudain, car l'on ose autant chanter « Du pain et des roses, du pain et des roses ». Alors que nous arrivons, marchant, nous nous battons aussi pour les hommes, car ils sont les enfants de femmes, et nous les engendrons de nouveau. Nous ne suerons pas nos vies de la naissance jusqu'à la mort. Les cœurs meurent de faim autant que les corps. Donnez-nous du pain, mais donnez-nous des roses. Alors que nous arrivons, marchant, d'innombrables femmes mortes pleurent alors que nous chantons leur antique cri pour du pain. Leur esprit besogneux connaissait les petites œuvres d'art, l'amour et la beauté. Oui, c'est pour le pain que nous nous battons, mais nous nous battons aussi pour les roses aussi. Alors que nous arrivons, marchant, nous apportons les jours meilleurs. L'émancipation des femmes signifie l'émancipation de l'espèce humaine. Pas plus de bêtes de somme que de fainéants. 10 qui peinent pour un qui se repose. Mais un partage des gloires de la vie, du pain et des roses, du pain et des roses.
Ça m'a parlé parce que c'est quelque chose qui est très courant dans la société, en fait, des gens qui vivent des discriminations tous les jours et sur tellement de sujets différents.
Eva, 21 ans.
Et là, moi, j'aurais voulu parler des attitudes qu'on peut avoir qui sont discriminantes, mais on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a intériorisé ça comme quelque chose de normal. Donc, ouais. En fait, là, c'est plus quelque chose que moi j'ai fait, qui peut être considéré comme une attitude discriminante. Quand j'étais jeune, en fait, j'avais 13 ans. Et bah, à cette époque-là, j'étais plutôt mal dans ma peau, parce que bah, c'est l'adolescence, hein, donc on connaît un peu cette période-là. Et comme je suis une personne qui est plutôt grosse, j'avais intériorisé en fait la beauté comme étant le fait d'être fin et maigre et le plus fine possible. Et voilà. Et j'avais une amie qui, elle, était justement très fine. Et je la voyais comme étant super belle. Pour moi, c'était l'objectif de beauté. Et je pensais pas qu'elle puisse se sentir mal dans sa peau à cause de ça. Et je me souviens, donc on était amis, on avait tout notre groupe de potes. Et comme d'habitude, entre groupes de potes, parfois ça peut se charrier gentiment, hein, sans rien de méchant. Des personnes maigres, en fait, elles ont souvent vécu ça. De, par exemple, prendre le tour du poignet avec les doigts pour faire tout le tour. Et faire « Waouh, t'es super fine !» et tout. Et je me souviens que j'avais fait ce geste-là, qui est hyper violent maintenant, qui est même qualifié de maigrophobe, où j'avais mis ma pote de profil, et j'avais fait « Ah, bah on ne te voit plus !»« Ah, bah t'es où ?» Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait être violent pour elle, parce que je ne savais pas qu'elle se sentait mal dans sa peau. Et c'est des années plus tard, en fait, où je suis tombée sur une vidéo d'une fille sur les réseaux sociaux qui parlait de maigrophobie, qu'elle avait vécu ça, et que du coup, elle se sentait mal. Ça m'a fait remettre en question, en fait, toute cette ces postures que j'avais eues et le fait que j'avais eu des comportements blessants, en fait, avec cette amie, et sans m'en rendre compte. Mais je ne m'en étais pas rendu compte, en fait, et je pense même que c'est le genre de choses qui peut créer des complexes. De entendre dire ça, peut-être qu'elle s'était même pas posé la question de est-ce qu'elle est normale, entre guillemets, alors que oui, hein, juste elle est comme ça. Bah, avoir ce genre d'attitude, ça peut créer des complexes vraiment. Je sais pas, je pense que ça a appuyé ça en fait. Je fais vachement plus attention, mais pas que sur ce sujet-là en fait. C'est que ça m'a fait me poser des tas de questions sur toutes les attitudes discriminantes qu'on peut avoir, mais ça peut être sur n'importe quel sujet, ça peut être sur une personne qui va être plus grosse avec la grossophobie, ou alors les personnes qui peuvent être homosexuelles et ce genre de choses, ou des choses que vraiment la société considère comme normales, qui ont été banalisées, et qu'aujourd'hui c'est plus possible, donc il faut vraiment être attentif, remettre en question aussi les réflexes qu'on peut avoir, ou ce genre de choses, pour faire plus gaffe. Et après je me dis, je peux pas changer ce que j'ai fait, mais par contre, je peux faire attention à ne plus avoir ce genre d'attitude. En fait, c'est qu'on avait perdu contact déjà à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Après, je sais qu'on est resté amis pendant longtemps, parce que c'était la période du collège, on est resté amis pendant tout le collège. Et je sais qu'après, dans le futur, forcément, j'ai eu des tas d'autres amis avec des tas d'autres morphologies différentes. Et j'ai pas eu à nouveau ce genre de comportement. Juste parfois, j'y repense et je me dis, purée, je me remets souvent en question. Et je pense que c'est ça qui fait avancer dans la vie. Après, je sais qu'il y a des personnes, se remettre en question, c'est pas possible. Mais ça, c'est aussi une question d'orgueil et ce genre de choses. Et c'est là qu'il y a des personnes qui pose problème, en fait. C'est que c'est toujours ramener la personne à une seule chose, en fait. Ça peut être son handicap, ça peut être son genre, ça peut être son orientation sexuelle. Et donc, en fait, c'est que la personne, elle se retrouve à être juste une seule chose, et sa personnalité, elle peut pas... On lui donne pas accès à sa personnalité, comment dire, dans la société en général. On la... cantonne à une seule chose, et derrière, on ne peut pas apprendre à la connaître vraiment, on ne peut pas apprendre non plus à prisonnière dans les préjugés, parce qu'avec la discrimination, il y a toujours les préjugés qui viennent, et du coup, dans ce cas-là, ça va faire qu'on n'a pas les autres voies qui sont ouvertes pour ce qu'on veut vraiment développer chez nous, ou s'épanouir, ou ce genre de choses. Parce que c'est souvent le truc de se demander si la personne est « Ah, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je suis vraiment trop grosse? Ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je suis vraiment... » Et dans ce cas-là, c'est juste de rassurer la personne, lui dire que non, c'est l'autre qui a tort, en fait, et tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et te donner les moyens de réussir, ou ce genre de choses. Il y a des témoignages qui sont donnés sur des situations discriminantes, de se poser la question de « Est-ce que... moi, j'ai fait partie des personnes qui ont discriminé. Et si oui, j'en ai fait partie, soit s'excuser auprès de la personne quand c'est possible. Et si c'est pas possible, de faire attention à ne pas recommencer, parce que c'est toujours blessant et on ne sait pas en fait ce que la personne elle peut vivre, si elle va repasser la situation dans sa tête en boucle, si elle va l'intérioriser comme étant une vérité ou ce genre de choses. Et ben, ce n'est pas acceptable. Si, ça c'est un truc aussi, c'est que je crois que le problème aussi dans la posture que j'ai eue, c'est qu'à cette époque-là, forcément, en fait, j'étais très centrée sur moi. Et donc, je ne me suis pas mise à sa place et je n'ai pas pensé à ce que ça pouvait lui faire. J'avais ma vision de la chose. Je pensais que quand on était fine, on ne pouvait pas se sentir mal dans sa peau. Alors qu'en fait, si, carrément, c'est pas une question de morphologie, le mal-être. Et bah, un moyen de se remettre en question, c'est de se décentrer de soi et d'écouter l'autre et de faire attention à la personne, en fait. Je pense que si à cette époque-là, j'avais fait plus attention à elle, j'aurais pu voir que soit qu'elle rigolait pas ou qu'elle trouvait ça pas marrant, ou alors que si elle rigolait, c'était pas de façon sincère, quoi, c'est tout.
Rudy, 28 ans.
Je voulais faire de la musique. J'ai terminé mes études. J'ai essayé de me lancer dans la musique parce que mes parents m'ont toujours dit « tu pourras faire ce que tu veux ». Sauf que derrière « ce que tu veux », ça sous-entendait avoir un diplôme et ça sous-entendait avoir un CDD ou un CDI. Et j'avais pas compris « tu feras ce que tu veux », ça ne prenait pas en compte les métiers artistiques. Lorsque j'ai essayé de commencer une carrière dans la musique, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout accompagné. En fait, c'était un peu la jungle, le parcours du combattant. Donc la musique, quand est-ce que c'est devenu sérieux pour moi? En fait, au début, j'en ai fait un petit peu au collège, comme ça. C'était en amateur, pour rigoler. À la fin de mes études, donc, j'ai fait une fac. Et quand j'ai eu ma licence, j'ai voulu me lancer dans la musique de manière sérieuse et gagner ma vie. Au début, je connaissais pas du tout le milieu. Donc, je me suis dit que j'allais voir, me rencontrer des gens qui savaient en faire. Au tout début, mon projet musical, c'était dans un groupe de musique avec deux copains. Il y avait un bassiste et un gars qui chantait. Mais en fait, ils n'étaient pas suffisamment dans une volonté d'être pro. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai essayé de me rapprocher de groupes qui voulaient vraiment réussir. Je faisais du piano parce que c'est ça que j'ai appris en autodidacte. J'ai essayé un petit peu le conservatoire, mais c'est pareil, en fait, le conservatoire, c'est quand même un peu une élite des personnes qui sont mises par leurs parents depuis qu'ils sont jeunes. Si, quand tu arrives en tant que jeune adulte ou même lycéen, voire collégien, c'est très difficile de rentrer au conservatoire, c'est très difficile d'accrocher le conservatoire parce qu'il y a du solfège, c'est-à-dire de la théorie musicale qui est compliquée à comprendre. Et puis quand on s'imagine faire de la musique, on ne s'imagine pas apprendre de la théorie, tout ça. Et malgré ma volonté et même le fait d'accepter de faire de la théorie et tout, en fait, quand tu changes de ville, il faut se réinscrire au conservatoire et ils font faire des tests très difficiles avec des exigences très précises. Et c'est vachement difficile de se faire accepter. Sinon, on peut faire des écoles de musique. Mais ces écoles de musique, elles sont très souvent payantes. Donc il faut avoir de l'argent de côté ou il faut avoir des parents qui nous les payent. Et même en faisant une école de musique, il y en a très peu qui réussissent au final. On se retrouve toujours en fait à galérer, à essayer de trouver des groupes, à faire 5 groupes différents pour réussir à en vivre. Et puis ça galère, et puis le groupe il split. Et puis donc au final, on se retrouve souvent à donner des cours. En fait, la discrimination, je l'ai ressentie déjà par mon entourage qui ne m'a pas du tout aidé. Ils m'ont dit, par exemple, quand j'ai commencé à donner des cours, ils m'ont dit « Ouais, c'est une bonne idée, mais tu gagneras jamais ta vie avec ça. » Et ensuite, lorsque j'ai commencé à faire des spectacles, ils m'ont dit « C'est bien, mais il faut bosser plus. » J'ai ressenti aussi de la discrimination par la société en elle-même, c'est-à-dire que j'étais très peu accompagné, il y avait peu de structures pour nous aider. J'ai voulu faire un gros spectacle de piano, de danse, un truc un peu complet. Et en fait, il n'y avait pas de salle pour pouvoir répéter. Les salles pour répéter, il fallait payer encore. En fait, il faut toujours payer. Même pour les métiers de l'artisanat, je pense que de manière générale, en fait, dès qu'on essaye de faire un truc avec ses propres mains, mais que ce soit de la musique ou de l'artisanat, en fait, il y a toujours des grosses structures qui monopolisent le marché et qui, en fait, empêchent des personnes individuelles à réussir. En fait, les groupes de musique qui réussissent, derrière, ils ont des grosses structures de production qui les aident, qui ont beaucoup d'argent et qui les mettent en avant sur Internet, machin, qui ont du réseau. Et donc, en fait, c'est toujours comme ça partout en fait. C'est extrêmement difficile de réussir soi-même. Je pense que j'ai la fibre artistique et que j'aime faire plaisir aux gens quand je joue, et c'est quelque chose qui me fait du bien, et je sens que ça fait du bien aux autres aussi. Quand je jouais dans les EHPAD et tout, je sentais que ça leur faisait du bien, et que c'est toujours agréable. Les gens ont peu de temps aussi pour aller écouter des petits groupes, pour s'ouvrir aux autres, etc. Surtout après le Covid. En fait, les gens, ils sortent de moins en moins de chez eux, ils ont énormément d'écrans, ils ont un peu peur de rencontrer l'autre et tout. Et du coup, ça bloque aussi ça aux petits artistes, parce qu'en fait, les gens ne s'ouvrent de moins en moins à l'artistique. Voilà. Et puis, après aussi, j'aimerais bien parler du statut d'intermittent pour les gens qui veulent réussir dans la musique en passant par ce biais-là. Et c'est un statut qui est bien, qui permet aux artistes de vivre de la musique en ayant à côté un revenu. Sauf que ce statut, il est de plus en plus renié, il est de plus en plus réduit. On sent qu'il va peut-être disparaître. Et même avec ce statut, en fait, on ne fait pas que de la musique. Il y a énormément de compétences à côté qu'il faut avoir. Aujourd'hui, moi, j'ai eu une phase, longue phase, où j'avais un peu abandonné l'artistique, et où je me suis dit, je vais rentrer dans le monde de l'art par la technique, par l'administratif. Mais en fait, c'est chiant. Mais aujourd'hui, en fait, j'essaye de trouver un équilibre, d'avoir plus d'autonomie alimentaire, de trouver mon autonomie énergétique alimentaire, de moins avoir besoin de gagner d'argent. Et du coup, à côté, en ayant cette base-là, je pense pouvoir refaire de la musique davantage, parce que j'aurai la possibilité d'en faire sans vraiment dépendre trop de l'argent. On ressent du mépris de manière générale, parce que en fait, on n'est pas sur en tant que musicien ou personne qui veut vivre de l'art, mais là je parle de musicien, on a toujours l'impression d'être un peu un pouilleux. On a toujours l'impression d'être pas à sa place, de pas faire ce qu'il faut, d'être rêveur, surtout de pas avoir les pieds sur terre, et on se sent tout le temps on a l'air un peu bête devant les autres, parce que on rêve trop dans la lune, trop dans nos rêves, dans nos idées, dans la musique, dans l'artistique, d'imaginer des spectacles, d'imaginer des nouvelles musiques, de composer. Par exemple, quand j'ai fini ma licence de psycho et que j'ai dit à mes maîtres de stage que je voulais faire de la musique, en fait, je suis passé un peu pour un idiot, je passe un peu pour une personne perchée ou paumée, où en fait, la seule chose que les gens voient, c'est le résultat final. Et du coup, ils ont l'impression que derrière, il n'y a pas forcément de travail, que derrière, il n'y a pas eu énormément de temps passé à répéter. Et si par contre, tu as le malheur de faire une fausse note, ou tu as le malheur de faire le moindre écart dans ton spectacle, et ben là, ça, on va bien te le dire, on va bien te le montrer que tu t'es raté. Mais par contre, tout le reste que tu as fait qui est bien, ça, les gens, ils vont pas forcément remarquer.
Odalie, 21 ans.
La première fois que j'ai ressenti de la discrimination, je pense que c'était à l'école primaire, à la suite d'un voyage en caravane de 2 ans que j'avais fait. On s'est arrêté dans un village, et donc moi j'ai repris l'école, et je me rappelle que j'étais dans le rang, et on s'est moqué de mon mono-sourcil en me disant que punaise, elle avait vraiment des gros sourcils quand même. Et ça m'a marqué, parce que à partir de cette époque-là, j'ai commencé à m'épiler les sourcils, donc en CM2 quand même. La caravane, on avait un accès difficile à l'eau, on n'avait pas non plus beaucoup de revenus, etc. Et assez rapidement, du coup, je me suis habillée à la Croix-Rouge. Je prenais pas forcément des douches tous les jours. J'avais les cheveux un peu emmêlés, tout ça. Donc au collège, très rapidement, c'était un peu la plouque, les cheveux emmêlés. Ah, tu pues, t'as acheté tes fringues à la Croix-Rouge ou quoi? Oui, je les ai achetées à la Croix-Rouge. Ça vient de ta grand-mère, tes fringues ou quoi? Ouais, ça vient de ma grand-mère. Ça me faisait du mal, parce que moi je comprenais pas où était le mal justement, et que c'était juste ma vie, que moi j'étais comme ça, que j'avais pas forcément de moyens en plus de changer ou de m'adapter aux autres, parce que quand la famille n'a pas forcément beaucoup de revenus, toi en tant qu'enfant, tu fais avec, en fait. Hein. Ça m'a créé une réputation dès le départ. Disons que j'avais été jugée très rapidement par rapport à mon apparence physique et qu'on m'avait pas laissé de deuxième chance de démontrer que j'étais pas une plouc. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire plouc en fait ? Quel est le reproche derrière ? Est-ce que le reproche c'est que j'avais pas des chaussures de marque, que j'avais pas les cheveux en couette ? Quand t'es jugée dès le départ sur ton apparence, c'est très difficile d'avoir la confiance d'aller vers les gens, parce que tu sais en fait que c'est des rumeurs qui courent, qu'en plus, notamment dans les établissements scolaires, il n'y a pas forcément le soutien des surveillants, des CPE, qui peuvent beaucoup minimiser ce type de remarques, parce que c'est considéré un peu comme du chahut d'enfant, quoi. Et c'est pas forcément pris en compte, donc il n'y a pas forcément de soutien au sein de l'établissement scolaire. C'est difficile d'avoir une réaction, j'ai dit, c'est difficile d'avoir une réaction par rapport à ça quand t'es un enfant, parce que bah, tu vis ta vie au sein de ta famille, et si t'as pas les moyens de t'acheter des chaussures de marque, t'as pas les moyens de t'acheter des chaussures de marque, et puis c'est tout, quoi. Donc t'apprends à vivre avec, Et puis, je sais que ça crée aussi pas mal d'agressivité, parce qu'en fait, en tant qu'enfant, quand t'arrives comme ça dans un milieu scolaire et qu'on se moque de toi et tout ça, t'as pas forcément les armes pour répondre. À ce moment-là, j'avais pas forcément la conscience politique de savoir que c'était pas grave, que c'était pas sur ça qu'il fallait orienter le jugement. Je pense, et j'en suis même sûre, que ça vient pas des enfants, hein. Bien sûr, c'est tout un contexte social qui marginalise énormément. Il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent énormément, c'est des choses qui sont beaucoup reprises, on prend des photos de toi, on les fait tourner un petit peu dans tout le lycée, donc même sur les réseaux, il y a beaucoup ce truc de faire de l'humour en se moquant des gens. Ça donne confiance aussi à certains élèves qui peuvent eux-mêmes manquer de confiance, ou certains jeunes, de créer de l'humour autour d'une personne et donc du coup de la dévaloriser. En fait, ça rapproche toi-même, du coup tu te sens faire partie d'un groupe, t'as l'impression que t'es intégré, que c'est pas de moi qu'on se moque en fait. Quand tu fais partie du groupe, tu sais que t'es un peu épargné par la moquerie, parce qu'il y a une espèce de solidarité qui se crée entre les enfants, quoi, entre les jeunes. Je pense qu'on est dans une société d'apparat de plus en plus, même malheureusement, quand même de plus en plus cette dynamique de conformisme cette dynamique de valoriser les personnes sur leur apparat. Avec les réseaux sociaux en plus, le fait de pouvoir s'afficher sous un certain angle, le fait de consommer du contenu régulier de gens, d'influenceurs qui s'affichent toujours sous un certain angle et sous un angle qui est considéré comme valorisant. Le cerveau s'habitue de plus en plus en fait à percevoir une normalité comme positive, et une normalité qui va être très, qui va être caractérisée par des aspects très spécifiques qui vont être l'hygiène poussée à l'extrême. La minceur aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui revient beaucoup. Il y avait eu dans les années 2020 un peu un mouvement où on essayait de mettre des mannequins grande taille, où on essayait de valoriser des femmes et des hommes qui peut-être seraient en surpoids, etc. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît beaucoup aujourd'hui. On a quand même tous les acteurs, tous les chanteurs, etc. Sont extrêmement minces ou perdent du poids pendant leur parcours de réussite. En fait, la vraie problématique, c'est qu'on a que, en tant qu'enfant, des modèles et des images qui sont conformes et standards à ce qu'attend la société de nous, on va dire. Et c'est très difficile donc de s'en défaire, parce que tu te sens valorisé quand tu rentres dans la norme. Et il faut vraiment réussir à développer sa conscience politique, mais c'est quelque chose de difficile, pour comprendre qu'en fait c'est pas toi le problème, et que c'est pas en modifiant ton corps et ton apparence que tu vas te te sentir plus intégré, parce qu'en fait ton corps et ton apparence de base c'est toi, donc si tu la modifies en fait c'est comme si tu te mutiles un peu, c'est comme si tu mutiles ta personnalité, et donc au final tu te sentiras pas plus heureux. Donc la manière de réussir à se détacher de tout ça, c'est vraiment de prendre conscience que la problématique elle vient pas de soi, mais en tant qu'enfant c'est très difficile. Il faut avoir la chance de pouvoir être accompagné. Familialement, c'est pas toujours facile pour tous les enfants, voilà, de trouver du réconfort dans la famille.
Ben, moi, c'est vrai que comme j'ai vécu 2 ans en caravane avant de retourner à l'école, j'avais quand même développé une certaine confiance en moi, un peu inconsciente, hein, mais une confiance... en mes capacités morales, physiques, etc. Et mon apparence physique ne me préoccupait absolument pas. Donc je n'avais pas du tout cette problématique-là dans mon rapport aux gens, mes rapports sociaux, etc. C'est vraiment en arrivant à l'école, et je pense d'ailleurs que c'est un truc à souligner à quel point l'éducation nationale et le parcours scolaire de la primaire au lycée, voire même à la fac, hein, peut vraiment plomber la confiance en soi des élèves. Je sais que c'est le harcèlement subi et les discriminations, effectivement, ont vraiment m'ont poussé à modifier tout mon apparat physique, que ce soit effectivement par les vêtements ou moi. Je ne considérais pas mon corps comme un outil ou comme quelque chose qui pouvait me mettre en valeur, et je ne considérais même pas ça comme quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en grandissant et en étant confrontée à toutes ces remarques-là, j'ai commencé à douter et en fait à penser que ma valeur dépendait de mon apparat beaucoup. J'ai commencé à effectivement essayer de mettre des jupes, des robes, à me féminiser, épiler mes sourcils. J'ai même essayé de me maquiller, etc. Mais c'était des choses qui étaient très inconfortables pour moi, et donc c'était un double inconfort, parce qu'il y avait l'inconfort de la moquerie de base. Et après, il y a l'inconfort de se sentir ridicule en essayant d'imiter une norme et en essayant d'imiter, en fait, finalement, les gens qui se moquaient de moi. Donc c'est quelque chose d'assez contradictoire, parce que c'est des gens à qui j'en voulais, mais en même temps, je voulais leur ressembler pour essayer d'échapper à cette pression et à cette humiliation un peu constante. Et pendant des années, du coup, toute ma réflexion et mon évolution a été tournée sur mon physique. Comment est-ce que je peux maigrir? Comment est-ce que je pourrais être plus jolie? Comment est-ce que je pourrais être plus féminine? Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a empêchée pendant plusieurs années de développer des projets, de me projeter, en fait, matériellement, émotionnellement, etc. C'est vraiment quelque chose qui emprisonne et quelque chose qui fragilise fondamentalement, parce que ça crée une honte permanente, en fait, et une illégitimité à se présenter, à parler, à interagir. C'est un peu comme une chape de plomb qui pèse constamment, et c'est vrai que j'ai mis des années à me libérer de ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai eu la chance de m'entourer de bonnes personnes, et aussi le fait d'avoir développé une conscience politique et de me rendre compte qu'en fait, ces discriminations n'étaient pas que des discriminations personnelles, mais étaient vraiment structurelles, et que c'était des discriminations qui étaient des mouvements sociaux, en fait, que c'était vraiment que j'étais discriminée par rapport à ma classe sociale, par rapport au fait que j'étais une femme, par rapport au fait que j'avais voyagé, que toutes ces discriminations s'inscrivaient vraiment dans un continuum de discrimination sociale et politique, et que j'étais pas toute seule, en fait, à porter ce fardeau-là. Et ce qui m'a aidée, c'est vraiment de considérer la libération, en fait, la libération des corps, la libération de la femme, la libération même de l'institution et de l'institutionnalisation de sa propre personnalité. Du moment où j'ai réussi à considérer tout ça et à reprendre confiance en le fait que je n'étais pas qu'un corps, et que... et que ces remarques et ces moqueries n'étaient pas légitimes, ça m'a donné la force de me battre et ça m'a donné la force de retourner le ridicule et de comprendre que c'était pas moi qui étais ridicule, mais c'était ces gens en fait qui me jugeaient sur mon physique, que c'était ces gens qui n'étaient pas capables de percevoir au-delà des apparences. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pu me libérer et ça prend encore du temps, mais j'ai pu me libérer.
La chronique culturelle par Eva.
L'Empire des Femmes de Cassandra Lambert. C'est une histoire qui se passe au royaume de Sapienta, où les femmes détiennent le pouvoir et vivent dans la richesse sur le continent. Les hommes sont relégués au rang d'esclaves et n'ont aucun droit. Et chaque année, une poignée d'entre eux est sélectionnée sur l'île des hommes pour participer au tournoi sanglant des gladiateurs, où les jeunes filles se choisissent un géniteur. Adonna, la fille de l'organisatrice du tournoi, doit y participer contre son gré pour devenir mère, même si elle n'en a pas envie, puisque c'est considéré comme étant l'honneur suprême dans cette société. Elios, lui, il fait partie des sélectionnés, mais son but caché est de kidnapper Adonna pour faire pression sur sa mère et renverser cette dictature matriarcale. À travers donc cette duologie, puisque c'est en deux tomes, l'autrice, elle critique notre société patriarcale et elle questionne son bien fondé. Elle renverse les points de vue à travers donc des protagonistes qui vivent tous les deux mal les rôles dans lesquels leur monde les a placés, exactement comme les hommes et les femmes de notre société peuvent mal vivre les cases dans lesquelles notre société les enferme. C'est un livre particulièrement intéressant puisqu'il se base sur des faits historiques, dans le sens où l'autrice elle a récupéré des données scientifiques qui étaient publiées il y a très longtemps sur les hommes et les femmes et leurs différences, et elle les renverse. Elle utilise des phrases qui ont été prononcées par exemple par des politiciens qui étaient contre les femmes, par exemple en disant qu'elles étaient incapables de gouverner, sauf que là ce sont des femmes qui utilisent les mêmes phrases, les mêmes mots, mais au sujet des hommes, pour montrer à quel point ça pouvait être absurde. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est comment l'idée de ce livre lui est venue, puisqu'elle raconte qu'elle s'occupait d'enfants en cours de gym, et qu'elle a envoyé un petit garçon et une petite fille, donc de 8 ans, chercher une caisse de matériel. Et lorsqu'ils sont revenus, c'était le petit garçon qui portait la caisse seule, même si elle était beaucoup trop lourde pour lui. Et quand elle leur a demandé pourquoi est-ce qu'il la portait tout seul, et que la petite fille ne l'aidait pas, l'enfant a répondu que c'était pour vérifier s'il était un vrai homme. Et donc, l'autrice montre dans ses livres que notre société, même si elle donne énormément de pouvoir aux hommes, elle leur impose aussi des comportements qui ne sont pas bons pour eux, et de la même façon qu'elle enferme les femmes dans des rôles qui ne leur conviennent absolument pas. Donc c'est un livre qui permet de se questionner beaucoup, tout en étant très intéressant, et en se passant sur une autre société, sur un monde qui est totalement imaginaire, et pourtant qui fait écho au nôtre.
C'était Mission Jeunes, une émission réalisée par David Payet avec le soutien logistique de Radio Dynamo. Un grand merci à Cassandra, Léa, Odalie et Rudy pour leur témoignage, à Eva et Frédéric pour leur chronique et Enzo pour le poème. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 6 mai pour une nouvelle Mission Jeunes.
Jeunes est disponible en podcast sur le site de Radio Dynamo ou sur le site de la mission locale mlis36.fr. Rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une nouvelle émission.